When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Bienvenue dans ce troisième épisode du podcast We Love TFTC de We Love Cinéma. C'est avec une joie non dissimulée qu'on vous retrouve, et j'adore cette expression, une joie non dissimulée, parce que ça veut dire qu'à contrario, il y en a qui dissimulent leur joie. Enfin, ils sont heureux, mais ils ne veulent pas qu'on le sache. J'adore ça. Guillaume et Aurélien, vous êtes heureux, vous?
On est très heureux.
Ne dissimulez pas votre joie.
Moi, je dissimule jamais.
Ben, ça, c'est beau. Et bien, je suis ravi parce qu'aujourd'hui, on reçoit un invité qu'on aime beaucoup. Non pas qu'on n'aimait pas les invités d'avant, on les adore. Mais bon, celui qu'on accueille aujourd'hui, c'est une crème. À savoir Léopold Le Marchand et qui est Le Pérave. Comment ça va?
Il n'y a plus de Le Pérave.
Mais c'est pour ça que j'ai dit Léopold Le Marchand. Mais quand même, pour ceux qui ne connaissent pas, bien sûr, on va quand même raccrocher, tu vois.
Ça va, t'as raison.
Et d'ailleurs, est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas d'ailleurs?
Eh ben écoutez, pour tous ces gens qui sont totalement à l'ouest, à côté de la plaque, je suis comédien, auteur et j'officie essentiellement sur YouTube.
Chaîne YouTube qui vient tout juste de dépasser les 700 000 abonnés. On peut applaudir quand même.
Merci.
Bravo.
Alors, il y a deux semaines, c'est Aurélien qui avait choisi le film du jour sur l'outil Cinématcher, que vous pouvez retrouver sur le site de We Love Cinéma. Et ce film, c'est Y a-t-il un pilote dans l'avion? Il me semble que c'est un des films préférés de Léo.
Effectivement.
Ouais. Ça sent un peu le trucage tout ça, parce qu'Aurélien a choisi le film, c'est ton film préféré. Hein, ça sent la magouille tout ça.
Voilà. Alors, magouille et compagnie. Préféré,
c'est magouille et compagnie, comme on dit.
C'est comme la politique française.
Y a-t-il un pilote dans l'avion, donc, qui sera au centre de cet épisode. Film sorti en 1980, réalisé et écrit par le collectif Zaz, à savoir Zucker, Abrams et Zucker. Trois types qui ont révolutionné l'humour et la parodie aux États-Unis et qui ont inspiré bon nombre d'artistes, dont les nuls, pour ne citer qu'eux. Alors la question qui revient à chaque début de podcast, quel est votre premier souvenir lié à ce film? Et on va commencer avec Léo.
Eh bah écoute, moi il y a une scène qui m'avait beaucoup marqué et qui avait fait beaucoup rire ma mère à l'époque, c'est la petite fille qui est dans l'avion et qui est sur un brancard et qui... Et bon, je peux pas mimer, du coup les gens verront pas, mais qui suffoque parce que la nana qui lui fait de la musique pour l'attendrir dans l'avion, pour lui faire passer un plus beau moment, joue de la guitare et du coup débranche son fil.
L'intraveineuse.
Voilà, son intraveineuse et du coup elle s'étouffe, quoi, elle suffoque. Et cette tête-là, ma mère me la faisait souvent pour me faire marrer. Et donc c'est un film que je connais depuis très 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 longtemps et ça c'est, je crois, le plus beau souvenir, même si c'est un tout petit souvenir.
Je tape toujours un maximum de barres quand tu revois cette scène.
Avec ma mère, ouais, à fond.
Ouais, carrément. Guillaume ?
Eh ben moi j'ai dû le voir enfant, je pense. À l'époque ça passait vraiment sur TF1 l'après-midi, les samedis, etc. Et je pense que je comprenais rien aux blagues pour le coup. Mais tu sais, quand t'es enfant, tu te dis ok, c'est marrant, ouais, c'est marrant, je comprends pas.
Ouais, il y a
mais...
ce truc où les parents rigolent à côté, ouais, et comme t'as envie de mimer le truc, tu ris, mais t'as rien quitté la vanne.
Ouais, tu ris, tu fais ah, bonhomme gonflable, c'est pas marrant. Ah, ouais. Tu rigoles pour rien, mais je pense que c'était vraiment ça. Après, des souvenirs précis. Là, en le revoyant pour le podcast, c'est fou parce que je l'ai vraiment pas vu beaucoup dans ma vie, mais par contre, je me souvenais quasiment de tout, quoi. C'est vraiment des blagues intemporelles. Et après, on les a revues mille fois aussi parce que la blague de la prison russe, etc., la prison kurde, ou j'ai plus.
Turc. Ouais, je crois.
Et ben bref, les films de gladiateurs, etc., on les a vus 50 fois, mais en tout cas, quel film culte.
Aurélien ?
J'avoue. Moi, c'est nul, mais pareil, c'est parce que j'étais très petit, je pense, et il y a une blague qui m'a fait rire, je me suis dit, mais comment ils ont fait et tout. C'est quand le pilote, il sue, et tu sais, on dirait qu'il prend une douche. Genre, il a de la flotte qui tombe en douche. Comment ils ont fait? Ils l'ont mis dans ses cheveux? Pourquoi il y a de l'eau qui coule autant? Et j'étais en train d'essayer de réfléchir à quel était l'effet spécial pour arriver à suer autant, avoir une douche, une douche de soie.
Moi, en fait, je mêle des souvenirs de ce film parce que un film qui m'avait traumatisé quand j'étais petit, c'était un film qui s'appelait 747 en péril, qui est un film sorti en 74. Et en fait, c'est le film qui a inspiré en partie Y a-t-il un pilote dans l'avion. Et dans cette histoire qui est beaucoup plus dramatique, qui avait un peu initié dans les années 70 les films catastrophes, on suivait un vol d'un 747 et en gros un avion de tourisme percutait le cockpit. Du coup, les pilotes mouraient et en fait, ils devaient être remplacés par l'hôtesse qui devait faire atterrir l'avion. Donc, c'est un peu le principe de Y a-t-il un pilote dans l'avion. C'est comme ça qu'ils ont eu l'idée. Et du coup, à chaque fois, j'avais entremêlé les deux et j'avais fait un classement des films les plus drôles sur la chaîne. Et j'avais bien évidemment placé Y a-t-il un pilote dans l'avion numéro 1 parce que, comme tu l'as dit, Guillaume, les blagues sont cultes, elles restent. C'est-à-dire qu'on pourrait en citer comme ça une dizaine, quinzaine.
Ouais, c'est
des trucs qui fonctionnent encore aujourd'hui. Et ça, c'est assez incroyable. Et pour revenir sur cette mode des films catastrophes, ça avait commencé en 70 avec le film Airport avec Burt Lancaster et Dean Martin. Et comme j'ai dit, voilà, ça avait initié une grande vague de films catastrophes. Il y avait eu Les Naufragés du 747. Là, c'était un avion qui coulait en pleine mer.
Au fond de la flotte. Voilà, ah, je m'en rappelle, celui-là, il était flippant.
Incroyable. Il y avait aussi L'Aventure du Poséidon qui ressemblait un petit peu le bateau qui se retourne, etc. Ouais. Il y avait aussi Airport 80 Concorde qui était avec Alain Delon qui venait clore cette vague de films catastrophes en avion. Et si ce genre de film vous intéresse, dans les années 70, il y en a eu plein. Une fois n'est pas coutume, c'est avec Guillaume que nous allons commencer aujourd'hui. Ah. Et il me semble que tu as dégoté des histoires d'avions assez farfelues mêlant des personnalités.
Alors, figure-toi que quand tu m'as proposé cette chronique, j'ai évidemment acquiescé parce que j'adore les personnalités et les avions, ce qui n'a rien à voir. Messieurs, dames, on part en 2011, figurez-vous, en décembre 2011 sur un vol American Airlines au départ de Los Angeles. Et on retrouve Alec Baldwin sur ce vol. Savez-vous pourquoi il s'est fait virer de son vol, Alec Baldwin ?
Balek.
Est-ce que vous en avez une idée ? Figurez-vous qu'il s'est fait virer de son vol pour ne pas avoir voulu éteindre son téléphone sur lequel il voulait finir une partie de Words with Friends.
Pas mal, c'est pas drôle.
C'est une sorte de Scrabble dont il est totalement addict. Alors il était très insultant, il s'est réfugié aux toilettes, il a claqué la porte tellement fort que le pilote, ils ont dit ouais, qu'est-ce qui se passe sur cet avion, etc. Ils ont appelé le personnel de bord et en fait c'était Alec Baldwin qui voulait pas éteindre son téléphone et qui voulait continuer à jouer. Et il a déclaré ensuite qu'il était tellement accro à ce jeu que ça valait même le coup de prendre un autre vol. Ce qui n'a absolument aucun sens.
C'est une info très tabzienne, ça me régale.
Très tabzienne. Et en fait, il a dit que après sur Twitter, il a dit ouais, c'est inadmissible, je suis un client de la marque American Airlines depuis super longtemps, etc. Et finalement, il a continué à la reprendre et tout s'est passé à l'amiable, il n'y a eu aucune charge contre lui. On reste aux États-Unis avec une grande star des séries américaines, David Hasselhoff. Et on est en juillet 2006 sur British Airways. Un vol Londres-Los Angeles à 7h du matin. Et David Hasselhoff n'a pas pu rentrer dans ce vol. Savez-vous pourquoi ?
Coupe de cheveux ?
Coupe de cheveux, pas mal.
Ouais. Il avait son manteau avec ses LED, là, son truc du mur de Berlin.
Et ben alors, figurez-vous que David Hasselhoff, et c'est bien triste, il était beaucoup trop bourré pour monter à bord. Il avait du mal à tenir debout et il parlait de son divorce aux hôtesses avant de monter. Et ça, non, mais ce détail, il va quand même.
La tristesse.
Ce détail, il a rendu la scène beaucoup trop triste.
Dans l'ambiance.
Je suis plus avec elle. Et donc, il parlait de son divorce et ils lui ont dit bah non, monsieur, vous pouvez pas monter sur le vol. Et ils l'ont fait dessouler. Il a pris un vol dans la même journée par la suite. Sachez que.
À quelle heure soir, juste.
Alors, l'horaire, je l'ai
S'il arrive à dessouler rapidement, David Hasselhoff.
C'est important.
Non, mais c'était. Après, bon, il y a des vidéos qui ont circulé sur le net de David Hasselhoff bourré, je vous conseille parce que c'est marrant. Maintenant, il va mieux, donc on peut en rire. Mais c'était quand même un sacré.
Il était bourré hier soir, j'ai regardé sur son Insta. Ce n'est absolument pas terminé.
En parlant de gens qui sont souvent bourrés, je vous propose un Français, évidemment, Gérard Depardieu.
Oh oui, il va nous régaler, c'est sûr.
Avec cette histoire, le 16 août 2011, que beaucoup connaissent, il était sur un vol CityJet pour Dublin. Figurez-vous qu'il allait sur le tournage d'Astérix. Et j'ai été très étonné de savoir que pour cette histoire. Que vous connaissez. Alors, il a pissé dans une bouteille d'eau.
Oui, ça c'était
parce qu'il a dit à l'hôtesse, il faut que j'aille pisser. Elle lui a dit non, désolé. Alors, pour sa défense, ils avaient déjà 20 minutes de retard sur le départ. Et elle est revenue et lui a dit, ah, encore 30 minutes à attendre. Bon, il a fait, bon, allez, laisse tomber. Il a dit à Edouard Baird, file-moi une bouteille. Et il a pissé dans la bouteille. Bon, il en a mis partout autour. Il en a renversé sur la moquette à la Gérard. Mais il était âgé, apparemment. Il avait juste envie de pisser.
Depardieu style.
Parce que moi j'avais lu comme quoi il avait bu plusieurs bouteilles de vin avant de monter, etc. Donc ça me paraissait normal. Mais en fait non, il était complètement à jeun et sans provocation. Il a même proposé de nettoyer la moquette lui-même. Et il a dit qu'il était hyper désolé, etc.
Sympa,
il est vraiment sympa.
C'est news en fait.
Hein ?
Moi, pour moi, il était complètement torché.
Mais non, mais tu vois, Guillaume rétablit la vérité aujourd'hui.
Ben, apparemment, il était à jeun, d'après le personnel de bord. Mais alors, toutes ces histoires, il y a quand même un truc qui est très classe. Je trouve que c'est toutes les compagnies aériennes, à chaque fois qu'elles ont reporté ou tweeté un truc à propos de ça, elles n'ont jamais cité les noms de personnes. Elles auraient pu, tu vois, pour juste shamer les stars. Et elles disaient juste, par exemple, un individu a fait pipi dans une bouteille. Et en fait, c'était Gérard Depardieu. Et ils ont jamais cité le nom. On reste en France avec quelqu'un de beaucoup moins sympa sur ce coup. Samy Nasseri, figurez-vous, à sa grande époque, en octobre 2000.
Grande époque.
À sa grande époque, ouais, c'était quand même Taxi, non, mais c'était quand même Taxi 2. Donc, c'était la grande époque de Samy Nasseri.
Le climax.
Voilà, le climax. Donc, il prend un vol Air France pour le Canada, pour la promotion de Taxi 2. Et faute de place, on lui propose d'être placé en classe économique. Bon, évidemment, c'est une grande star, tu vois, Samy Nasseri. Alors, il a dit, bah, non, ça va pas ou quoi ? Non, j'y vais pas. Ils ont dit, bah, désolé, on peut pas vous mettre autre part. Donc, ils l'ont mis en classe économique. Et pendant 5 heures, Samy Nasseri a insulté l'hôtesse de l'air en la traitant de tous les noms. Et il a quand même déclaré, je gagne 100 000 euros par jour. Si je veux, je t'achète.
Bravo.
Ouais,
je t'achète.
Je t'achète.
C'est quand même la pire chose.
Alors qu'est-ce qu'on fait avec une hôtesse de l'air à la maison à sa disposition?
T'imagines, elle dit oui, il l'achète. Oui, il l'achète. Le faire.
Évidemment, elle a décliné l'offre. Et donc, il a quand même pris. Alors, oui, non, parce que le pilote, il a dit.
Elle a décliné l'offre.
Le pilote, il a dit bon, écoutez, c'est bien simple, ça fait 5 heures que vous l'insultez. Si vous n'arrêtez pas, je vous dépose à un autre aéroport. On dirait un taxi en vrai. C'est genre, bon, si vous n'arrêtez pas, on s'arrête là. Je pense que c'était possible, en fait, tu vois, sur un vol. Et en gros, il s'est calmé. Il a quand même pris 3000 euros d'amende, Samy Nasseri, à l'époque.
Et ensuite, ce qui fait qu'il lui reste 97 000 pour terminer la journée. Et ça, c'est beau.
100 000 euros par jour, j'ai l'impression que, bon, bref.
Ouais, c'est un délire.
Ouais, parlons-en, c'est quand même énorme comme ça.
Une OP par jour.
C'est des francs. Attends, il y avait déjà 2 euros, je suis
con. Ah, peut-être que c'est des francs, ça fait 15 000 euros par jour.
Attends, en 2000, non, c'était les euros, ça.
Ouais, c'est des euros.
Ouais, c'est des euros. Il palpe 100 000 euros à lui. GG.
Il palpait. Il palpait, je pense, parce que là, c'est un peu moins. On part en 1994 avec Christian Slater. Vous savez ce qui est arrivé à Christian Slater en 1994?
Je nous régale d'infos.
Il n'a même pas pu accéder à l'avion. Il s'est arrêté aux barrières de sécurité, là où on met son sac, parce que dans son sac, il y avait un pistolet.
J'allais dire un gun, mais je me suis dit, c'est pas possible.
Il avait pris un pistolet. Alors, le problème, c'était que, bon, on a le droit d'avoir un pistolet, mais là, il était non déclaré, son pistolet. Il avait juste un pistolet sur lui. Et du coup, il a été arrêté et condamné à 3 jours de travaux d'intérêt généraux. Sachez-le. Donc, ne transportez pas de pistolet si vous prenez l'avion, évidemment.
Mais il a rien dit. Il a dit, oh, non, je suis trompé.
Un peu, il a dit, ah, bah merde, non, bah
merde. Il y a des petits signaux à l'entrée de l'aéroport.
Pas de gun.
Pas de gun, pas de couteau.
À chaque fois, on se dit, ça sert à rien. Mais en fait, si, ça sert à rien.
C'est quand même des cons.
Bon. Et là, on part en 2010 avec quelqu'un qu'on aime beaucoup, et c'est beaucoup plus triste ce qui s'est passé, sachez-le, c'est que Kevin Smith s'est fait jeter d'un vol, un vol intercontinental de Southwest Airlines pour avoir été trop gros et mettre en péril la sécurité du vol.
Ah ouais.
Alors, c'est une sale histoire.
Ils l'ont fait au sol quand même ou
non, en fait, il était déjà dans l'avion et ils sont allés le voir, ils lui ont dit « Bon, bah, monsieur, c'est pas possible, il va falloir descendre ».
Il y avait beaucoup de rire dans ce podcast juste avant.
Et c'est pas très cool. Mais là, c'est très triste. Et surtout que c'est très triste parce que donc lui, il a déclaré, il a dit attendez, j'ai acheté mon billet, j'ai passé les portiques de sécurité, vous m'avez fait monter dans l'avion, et une fois que je suis dans l'avion, alors que tout le monde me reconnaît,
c'est shame de ouf.
Vous me dites bon, vas-y, il faut descendre maintenant. Donc après, il a tweeté vous voulez dire que je suis trop large pour le ciel, ce que je trouvais assez joliment dit.
Poétique, c'est beau. Kevin Smith qui a fait une attaque. Ce que tu allais dire dans le.
Ben après, bon, il a quand même perdu 51 kilos depuis.
Suite à une attaque cardiaque.
Depuis. Mais alors, non, le comble de la honte, c'est que Southwest Airlines, pour s'excuser, ils lui ont proposé un chèque cadeau de 100 dollars.
Ok.
Ils avaient pris sur l'amende.
C'est vraiment très très classe par rapport à ce qu'ils ont fait.
Grand prince.
Grand prince.
Je savais pas qu'il était si gros, Kevin Smith, pour moi, il était.
Non,
il était un petit peu, mais ça va, il était pas obèse, quoi.
Mais en fait, non, la politique, c'était si vous pouvez pas refermer les accoudoirs, vous pouvez pas voler, quoi. Tu vois. Donc il pouvait pas les fermer. Mais bon, bref, il aurait dû payer. Bon, bref. En tout cas, c'est très très. C'est très très méchant de la part de Southwest Airlines. Et tout ça pour dire que. Alors. Figurez-vous que j'ai cherché beaucoup de problèmes de stars dans les avions, mais en fait, j'avais pas pensé que les stars, elles avaient des jets privés, quoi.
C'est vrai.
Elles ont des jets privés, donc elles ont pas besoin d'être en classe éco. Il y a que Samy Nasseri qui peut acheter des hôtesses, tu vois. Quand tu t'appelles Tom Cruise, etc., et Angelina Jolie, par exemple, bah, t'as pas besoin de jets privés.
Tom Cruise et Travolta qui conduisent leur propre avion.
Et alors, c'est ce que j'allais dire. Tu me fais une transition toute trouvée. Si vous vous trouvez, comme dans Y a-t-il un pilote dans l'avion, avec un problème dans votre avion, vous seriez bien heureux d'avoir quelques stars dans votre vol, puisque ils ont tous leur permis pilote, et je me permets de les citer.
Ah.
Angelina Jolie, Harrison Ford, Clint Eastwood, Kurt Russell, John Travolta évidemment, Morgan Freeman, Tom Cruise, Dennis Quaid et Hilary Swank. Sachez-le.
Kurt Russell, je suis surpris.
Ouais, bah.
Oh, ça m'étonne pas, allez.
C'est les anecdotes de ceux qui prennent l'avion, mais par exemple, Greta, est-ce que t'as des anecdotes de voilier, par exemple? T'as trouvé ça ou pas?
Non.
Alors les mecs. Terminé cette chronique?
Eh bien, figurez-vous, cette chronique est terminée.
Eh ben, bravo, Guy.
Bah, c'était top, moi j'ai aimé.
Est-ce que vous avez peur en avion? Je crois que toi, Léo, oui.
Ouais. Bah, en fait, j'avais pas peur avant. Et là, dernièrement, j'ai voyagé un petit peu et j'avoue que j'étais un peu flippette, ouais.
Parce que là, tu viens de faire un vol Los Angeles-Argentine, les deux en même temps?
Ouais.
Enfin, en même temps, non, c'est compliqué en même temps. Mais...
et ils m'ont rajouté un vol, j'ai dû faire une escale alors que je n'étais pas prévu. Et ouais, en fait, c'est pendant, j'arrivais pas à dormir et j'avais peur que mon avion. Se crash contre un autre avion. Et du coup, j'ai pas demandé après.
Contre un autre avion?
Ça, c'est.
Mais est-ce que c'est possible? Enfin, je veux dire.
Se crash contre un autre avion.
Oui, je voyais, il y avait des orages, il y avait des nuages et tout. Et je me dis, mais comment ils font pour j'imagine qu'il y a des milliers de solutions pour eux, mais comment c'est possible, quoi, tu vois, de...
Faut savoir que la plus grande catastrophe humaine aérienne a eu lieu lors d'une collision entre deux avions, sauf que c'était au sol, c'était en Espagne. Ouais. Je crois qu'il y avait eu plus de 700, parce qu'en fait c'était deux avions pleins, ouais, qui étaient sur le tarmac. Mais en fait il y avait du brouillard.
Ça va quand même pas très vite, quoi.
Bah ouais, mais il y avait du brouillard et ils se sont une collision,
c'est
puis ça a explosé.
C'est
voilà,
brûlé,
c'est la force.
Ouais.
Est-ce que tu mets quand même ton gilet de sauvetage à ce moment-là ou quand t'es au sol, comment ça se
passe? Humour très caustique. Yes.
Je crois en vol ils avaient expliqué, un pilote une fois entendre, vous avez l'impression qu'on se croise et qu'on n'est pas loin, mais il y a plus de 300 pieds entre chaque avion. Ils ont chacun leur niveau d'étage et tout ça.
Mais parfois dans le hublot tu vois des avions pas loin.
Ouais, tu crois qu'ils sont juste à côté. Ouais. En fait, ils sont quand même à plus de 450 mètres en dessous de toi. Donc, heureusement, ça va.
Bah, Guillaume, toi, t'as peur en avion ?
Alors, figure-toi, j'ai jamais peur, mais il s'est arrivé une seule fois où, en fait, c'était pas une peur de l'avion. C'est que d'habitude, même je m'endors avant le décollage, en réalité, tellement ça me rosera. Mais en fait, une fois, j'ai simplement regardé par le hublot, et d'un seul coup, mon corps m'a dit. Hey. Attends, mais on est méga haut.
Ouais. Surtout que toi, t'as le vertige.
En fait. Tu vois, et en fait, ouais, d'habitude, j'ai le vertige, mais en avion, pas vraiment, tu vois.
Bah ouais,
et un
jour,
je me suis dit, mais attends, mais en fait, c'est insensé ce qu'on est en train de faire. Qu'est-ce qu'on fait là?
On bouge pas. On est en l'air.
Attends, reprends tes esprits, Guillaume, c'est pas possible. Et tout. Non, mais juste une seule fois peur de ça, vraiment, parce que, en fait, quand on se rend compte, c'est fou. Bah, évidemment, tout le monde dit, ouais, il y a beaucoup moins d'accidents d'avion que d'accidents de train, de voiture, etc. Mais en fait, quand tu penses à ça, c'est quand même incroyable d'être là. Quoi.
Bah en fait, moi, ce qui me fait peur là-dedans, c'est de me dire que c'est pas normal que l'être humain soit en l'air comme
ouais, ça. C'est
qu'on on a été fait pour ne pas être dans les airs comme ça. Les oiseaux, oui, mais nous, non, tu vois. Et du coup, on se retrouve au milieu d'une grosse carcasse métallique dans les airs. C'est
ouais,
très
puis t'imagines, moi, en fait, je me suis vraiment imaginé un avion qui percute l'avant. Du coup, l'avion se fend en deux et nous, on est en l'air et on s'est projeté. Et va faire la descente de là où t'es jusqu'à en bas. Où tu sais que tu vas mourir, mais ça dure une minute.
Est-ce que tu t'évanouis pas?
Je pense que tu t'évanouis. Ouais. Ouais. Déjà, le choc thermique. Déjà.
Très créatif.
Il fait très très froid là-haut.
Et du coup, je me suis fait une mini crise d'angoisse.
Ah bah oui, c'est chaud.
Ouais, je pense que tu meurs direct.
Et toi, Aurélien, t'as peur de l'avion ou pas?
Non, pareil, au début.
En général, t'es un gros dur. T'es un peu le gros dur de l'émission.
Pas du tout.
Dans le bonhomme podcast sur Halloween, il y avait
un bonhomme, oui.
En vrai, j'avais pas peur. Et même, je me rappelle d'un vol catastrophique interne au Mexique où vraiment, là, il y avait tout pour se casser la gueule. Mais je trouvais ça un peu marrant. À un moment, la lumière, elle s'est éteinte. On était dans un orage. Je recevais des gouttes d'eau sur la tête et tout. Je me disais c'est compliqué mais ça va.
Les gens criaient hein.
En fait c'est plus quand je vois les autres gens paniquer.
Ouais bah ouais voilà,
là il y avait un mec qui était en train de prier et tout, tu vois, il y avait des trucs, il y avait des coffres à bagages qui s'ouvraient tout seuls. Je me suis vraiment dit peut-être que ça va être galère. Enfin,
ouais, y a un peu anxiogène.
Ça, et une autre fois aussi, pareil au Mexique. Le Mexique, les vols internes, je vous recommande pas trop. Enfin, dans les années 2000, c'était limite. Les mecs nous ont fait descendre de l'avion en nous disant il y a un problème technique, on va voir ce qu'on va faire. Et ils nous ont mis, en fait, devant l'avion avec des vitres, donc on voyait ce qui se passait. Et là, on a vu un type arriver avec sa petite voiture, sortir tout ce qu'il y avait dans le moteur, le mettre sur une sorte de tissu. Et il a commencé à enlever toutes les pièces et à les remettre. Et après, ils nous ont dit allez, on remonte dans cet avion. Je sais, mais on est sûr qu'il a remis toutes les pièces. C'est un peu limite, non?
Il y a aussi ce truc de faire confiance à l'humain. C'est-à-dire qu'on remet notre vie entre les mains d'un humain qui va
piloter l'avion. Mais pour moi, c'est exactement le problème avec les manèges à sensations. Chaque fois, je me dis, notre vie, elle tient un boulon de merde qui est mal fixé, quoi, tu vois.
C'est vrai.
Moi, j'ai toujours eu peur en avion, mais quand j'habitais à Montréal entre 2008 et 2010, j'avais l'habitude de rentrer à Paris souvent. Donc, j'ai souvent pris l'avion. Et je me suis rendu compte que quand on prend souvent l'avion, bah, du coup, on n'a plus peur, en fait. C'est comme une sorte d'habitude. Je m'endormais au bout de quelques minutes. Par contre, je me souviens d'un jour où j'avais fait une escale à Boston et on avait dû prendre un avion, vous savez, ces petits avions qui doivent comporter peut-être 15 personnes avec des hélices qui tournent comme ça en extérieur. Et là, t'es pas vraiment rassuré quand tu prends un avion comme ça. C'est pas la joie. Mais après, ça va. En fait, moi, ce qui me fait peur, c'est d'être au-dessus de la mer. Alors que, bizarrement, même au-dessus de la terre, bon, bah, tu te craches, quoi. Mais être au-dessus de la mer, ça me fait peur.
Toi qui t'es renseigné un peu sur les crashs, la vraie question, c'est si jamais, bon, à un moment, ils nous disent, bon, écoutez, les gars, on va se crasher. Donc, sortez vos masques à oxygène et le toboggan, etc. Mais il y a des gens qui survivent à ça. Ça suffit, en fait, le petit.
Mais ça arrive, tu sais, qu'il y avait une histoire d'un avion qui s'était crashé en pleine mer. Je crois que c'était au Soudan, je crois.
Et tu t'en sors.
Enfin, c'était pas au Soudan, au large du Soudan, je sais plus. Et en gros, il y avait une jeune fille de 14 ans qui avait survécu toute seule. Et elle avait été retrouvée comme ça au milieu de la mer. Il y avait peut-être 200, 300 passagers. C'était la seule qui avait survécu. Et l'interview était très intéressant parce que le type lui avait posé une question au journaliste. Il lui avait dit qu'est-ce qu'on ressent au moment de l'impact? Ça, c'était une bonne question parce qu'on veut tous savoir ce qui se passe. Et elle avait dit c'est comme si tu te prenais une décharge électrique fois 10 millions. Tu vois, quand tu prends une petite décharge électrique avec les doigts ou un truc comme ça, bah c'est ça dans tout le corps. Et puis d'un coup, tu te réveilles et puis t'es au milieu de la mer, etc. Ah. On a vraiment pas envie de connaître cette ambiance.
Si je peux transitionner sur un sujet, à savoir le jus de tomate dans les avions, parce que je vois beaucoup, beaucoup de gens prendre des jus de tomate.
Ouais, c'est vrai. Ça.
Quand les stewards donnent à boire. Sachant que dans ailleurs, dans la vie, personne n'en prend du jus de tomate.
Et surtout, c'est ta dernière boisson si ça s'écrase.
Exactement. Et ça aurait pu du jus de tomate.
Et ça, c'est triste.
Mais genre, vraiment, à chaque fois, j'en vois beaucoup. Et je me dis, mais les gars, vous la pétez. C'est juste pour prendre. Pas de plaisir. Ils voient
vous la pétez.
Ils voient la bouteille de jus de tomate. Ils disent, oh putain, je vais tester.
Tu crois que c'est. On peut se la péter en soirée avec ça? Moi, je bois du jus de tomate.
Ouais.
Ouais. Tu vois
ouais, ça me donne l'impression d'être dans un avion. Mais c'est vrai, ça. Je sais pas pourquoi les gens prennent des jus de tomate dans l'avion alors que personne n'en prend dans la vie normale, quoi.
Écoute, après le podcast, quand il sortira, je lancerai un sondage sur Twitter. Est-ce que vous prenez du jus de tomate en avion? Ça, on saura définitivement si les gens en boivent. C'est le moment musique de ce podcast. Alors, en France, on appelle ce film « Y a-t-il un pilote dans l'avion ?» Mais son titre original, c'est « Airplane ». « Airplane », c'est aussi le titre d'une chanson du groupe californien « Local Natives » que j'écoutais pas mal en 2009. Alors, on vous laisse avec eux quelques minutes et on se retrouve juste après.
Yeah.
C'était donc Airplanes du groupe Local Natives, titre issu de leur album Gorilla Manor, sorti en 2009. Alors Léo, c'est le moment de l'interview. Et comme le film du jour se déroule dans un avion, je vais te faire un interview crash d'avion. Et si les gens écoutent ce podcast dans les airs, je leur présente d'ores et déjà mes plus sincères excuses. Et d'ailleurs, la discussion qu'on avait avant, parce que je sais qu'il y a des gens qui écouteront probablement ce podcast c'est en avion, c'est pas la joie.
Ouais.
Non, c'est pas la joie.
Et d'ailleurs, il n'y a aucun film dans les avions qui sont diffusés.
Non, jamais.
Qui contiennent un crash d'avion.
Jamais, mais un jour, correspondance Montréal-Paris, il y avait un type à côté de moi qui était assis et qui avait un livre qui s'intitulait... très sobrement, les plus grands crashs d'avion. Et sur la pochette du livre, on voyait des crashs d'avion. Et en vrai, ça m'avait vraiment saoulé, tu vois. Tu sais, en fait.
Bah ouais, genre, c'est énervant,
ouais.
C'est chelou.
Et tu sais, j'avais posé une question, j'avais fait, bah, bon choix de livre, tu vois. Tu sais, pour un peu engager le débat.
En anglais ?
Non, c'était en français.
Okay.
Et en gros, il m'a dit, ah ouais, et tout, machin. Mais tu sais, en fait, je trouvais ça nul de faire ça, quoi. Ouais, tu sais, t'es assis à côté de deux personnes, tu lis ce livre. Tu sais, c'est relou pour les gens à côté.
C'était pas une vanne, genre, il y avait juste la jaquette.
Non, mais je pense que c'est son moyen d'être un peu, tu vois, un peu caustique, un peu humour noir.
Est-ce qu'il avait pris un jus de tomate?
Mais écoute,
mais voilà, peut-être qu'on va.
Mais ouais. Ça voudrait dire que les gens qui prennent du tomate sont d'énormes bâtards.
Ouais, ça, mais c'est peut-être ça.
Ça voudrait dire. Donc, le but de cette interview est très simple. Il n'y a plus de pilote. L'avion va se crasher dans 20 minutes, le temps de la descente. Il est temps de se faire les derniers petits plaisirs.
Ah, mais voilà. Mais
t'as envie de
se
faire les petits derniers plaisirs.
De connaissance, c'était évident.
Alors, la dernière musique que tu écoutes avant de te crasher.
Gimme More de Britney Spears.
Extrait. Le dernier film que tu regardes.
Ah, bah mais s'il me reste 20 minutes.
Un petit film comme ça, 20 minutes. 20 minutes,
20
de,
minutes
film.
De début de film.
Ouais, allez, t'es chaud pour regarder un film même si tout le monde est en panique dans l'avion.
Écoute, peut-être que... Peut-être que je me fais... Ah, mais c'est le début. Ouais, je me fais peut-être Forrest Gump.
Ouais.
Ouais, ouais.
Ouais, t'as envie de vraiment chialer jusqu'au bout. Quoi.
Ouais, ouais, ouais.
Ok, pourquoi pas. Le dernier truc que tu bouffes.
Du homard.
Ouais, du homard dans l'avion. Il y a un mec en train de cuisiner l'homard dans l'avion. Il prend le temps pendant la descente.
Oui, ça va cracher. Oh, c'est mon petit Léo, son petit homard. Ça lui fait plaisir.
La dernière personne que tu appelles.
J'appelle ma meilleure amie.
Ouais.
Ouais. Qui après fait le relais à tous les gens, les autres personnes.
Très bien. La dernière photo que tu postes sur les réseaux. Faut qu'elle soit stylée, hein. C'est la dernière, l'avion est en descente.
On va se cracher, yeah!
Ah, mais faut que je la prenne en direct.
Hein?
Faut que je la prenne en direct.
Ouais, enfin, la dernière photo. Ouais, ou non, tu peux fouiner dans ton répertoire, sinon, enfin, dans tes photos d'archives.
Ouais. Et bah, écoute, non, je pense que je mettrai une photo qui a été prise par un photographe et tout.
Ouais.
Où je suis un peu.
T'es beau gosse,
ouais,
tout.
Un peu stylé. Okay, que je meurs
sans les gens, juste, tu veux qu'on sache que t'es beau gosse.
Voilà, ça.
Pour la photo posthume. Allez, salut.
Non, je me prends photo avec le gars qui prépare le homard en mode, voilà. Mes derniers instants.
Avec un jus de tomate.
Le dernier bon souvenir de ta vie que tu te remémores avant le crash.
Ben.
C'est l'interview d'émotion un peu. Là.
Ouais, ouais. Mon dernier beau souvenir. Je crois que...
Un grand souvenir de ta vie que t'aimerais avoir juste avant le crash.
Bah, ce podcast, non.
Non.
Non, non, non.
Ok.
Bah, en fait, ma vie est parsemée de plein de petits beaux moments, mais j'ai pas de gros événements marquants. Mais tu vois, par exemple, les retours que j'ai eus par rapport à Gérald 4 hier, bah, c'était un beau moment pour moi. J'étais très content.
Ok, donc cette effusion d'amour que peut apporter des abonnés sur YouTube.
Ouais.
Yes.
Donc, je fais pas ça pour faire ma promo, mais en vrai, c'est vrai. C'était hier, tu vois.
Le mec fait sa promo 20 minutes avant le crash.
C'était hier et je me dis, bah putain, c'était agréable, quoi, d'avoir des retours comme ça.
La dernière phrase que tu cries avant l'impact, ce sera ma dernière question.
Salut.
Salut. Ok, bah, écoute, c'est une bonne phrase. En fait, tout ça m'amène à une anecdote. Quand j'étais au collège, il y avait une discussion comme ça à la cour de récré. Et un type m'avait dit, mettons, l'avion il se crash. Qu'est-ce que tu fais? Tu es en dernier. Et à cette époque-là, je sais pas, je devais être en cinquième, quatrième. J'étais puceau. Et j'avais dit, bah, moi, je baise une meuf direct.
C'est vrai qu'on pense tout à ça.
C'est un truc qui m'avait marqué. Mais je pense que personne n'a envie de baiser avec moi pendant la descente, quoi. Tu vois, je vais voir une meuf. Je suis puceau. Est-ce que ça vous dirait de me déflorer comme ça pendant le crash d'avion? Et je me rends compte avec le recul, maintenant que je suis grand, que c'était vraiment débile.
Peut-être si t'allais 100 000 euros de Samina Sri, ça peut se faire.
Ah,
mais
pourquoi
peut-être.
Pas. C'est au tour d'Aurélien de nous en apprendre des bien belles, car dans ce film, il y a énormément d'acteurs très drôles, Leslie Nielsen ou encore Lloyd Bridges. Et parmi ces acteurs qui nous ont fait rire, un basketteur, Karim Abdul-Jabbar, icône des Lakers dans les années 70 et 80. Karim Abdul-Jabbar, que l'on peut aussi voir dans le film Le Jeu de la Mort, aux côtés de Bruce Lee, et des sportifs au cinéma, il y en a eu énormément, Aurélien.
Eh ouais. Eh ben, tu m'as pourri mon intro parce que je voulais parler du jeu, du jeu de la mort, qui est quand même un film important de Bruce Lee. Mais qui
tu peux y aller parce que je crois qu'il y a un combat avec Karim.
Alors, en fait, c'est ça qui est intéressant, c'est que donc quasiment le seul autre film que Karim Abdul-Jabbar fait, et en plus là où il joue pas son propre rôle, parce que dans Y a-t-il un pilote pour sauver l'avion, c'est oui. un peu mélangé, lui, on sait pas s'il joue lui-même ou si c'est un autre personnage. C'est donc le jeu de la mort qui donc intervient 8 ans auparavant, parce que le film en lui-même a été tourné en 72. Mais Bruce Lee a arrêté le film pour tourner dans Opération Dragon, je crois.
Yes.
Sur lequel il avait un peu plus de budget, et donc il pouvait faire un peu plus ce qu'il voulait. Donc il avait dit, bah, je reviendrai après sur Le Jeu de la Mort. Sauf que il est mort.
Bah, ouais.
Pour le coup, c'est le réalisateur de Opération Dragon qui a ensuite fini le film genre en 78.
Ouais.
Mais dedans, en fait, il n'y a que 10 minutes de Bruce Lee, dont 5 minutes du combat avec Karim Abdul-Jabbar, qui était en fait son poteau. C'était son disciple avec qui il avait appris à faire un peu du kung fu.
Ouais, parce que comme on peut le voir dans Once Upon a Time in Hollywood de Tarantino, Bruce Lee entraînait des acteurs, entraînait des gens, des sportifs, etc.
Exact. Dont Karim Abdul-Jabbar et tout. Mais par contre, il se fait vraiment éclater. C'était un des combats les plus violents d'ailleurs de l'histoire de Bruce Lee au cinéma.
Mais la scène culte, on voit la trace de son pied sur son costume jaune.
Ouais.
Et d'ailleurs, si je dis pas de bêtises, peut-être que je dis une bêtise, mais je crois que dans Le Jeu de la Mort, il y a ce fameux combattant qui combat Van Damme dans Bloodsport. J'ai oublié son nom. On saura le retrouver.
Ah ouais?
Mais je crois qu'il a commencé dans un film avec Bruce Lee, peut-être dans Le Jeu de la Mort.
Ah, c'est possible.
Crois.
Ouais, c'est possible.
Enfin bref.
Mais en tout cas, Jeu de la Mort, c'est vrai qu'il y a plein de légendes autour de ce film, donc c'est marrant de retrouver un basketteur là-dedans. Surtout que c'est parmi les années 70, c'est un peu là où tout se passe pour les sportifs de haut niveau qui deviennent des acteurs, c'est assez drôle. Et d'ailleurs, pour rester dans le basket, il y a un autre grand basketteur qui était d'ailleurs un peu l'ennemi juré de Karim Abdul-Jabbar, c'était Wilt Chamberlain.
Ouais.
Qui va lui aussi donc il est réputé pour avoir été le premier joueur à avoir passé 100 points dans un match quand même ça n'a toujours pas été battu d'ailleurs et qui est aussi réputé pour avoir eu plus de 1000 conquêtes dans sa vie.
Ah c'est oui
son grand truc, ouais. Il y avait un chiffre comme ça
qui tournait. Comme ça, comme Mick Jagger,
Sami Nasseri, non.
Apparemment ça a foiré. Et donc Wilt Chamberlain, il est connu pour quasiment un seul rôle, c'est dans Conan the Destroyer, donc le deuxième, avec Schwarzy, qui lui aussi est un grand sportif de haut niveau à la base. Donc c'est assez marrant, parce que Schwarzy, vous allez voir, on le retrouve souvent dans ses films avec d'autres acteurs sportifs. Et donc, dans Conan the Destroyer, il s'appelle Bombata, notre cher Wilt Chamberlain, qui est en fait repris d'un chef zoulou, un grand chef
pas
zoulou,
le streamer,
tu vois,
hein.
Le fameux, non, un grand chef zoulou des guerres du zoulou, tu vois, zoulou. A priori non, mais c'est aussi de là que vient Afrika Bambaataa, le nom Afrika Bambaataa, le rappeur, le musicien, tu vois. Donc c'est assez fort. Si on reste dans le basket, on a aussi Dennis Rodman, bien sûr, était un grand joueur des Pistons dans les années 80.
Ah, on connaît bien.
Et donc il y a le fameux Double Team avec Jean-Claude Van Damme qui sort en 97 alors qu'il est encore en contrat et qu'il est en train de jouer avec les Bulls en fin de carrière, ce qui est assez ouf parce qu'en gros à la fois il est à cette époque-là, il fait du catch aussi avec Hulk Hogan, il
sacré
est
carrière.
Basketteur chez les Bulls, il gagne des titres et en même temps il joue donc dans Double Team avec des cheveux verts si je ne m'abuse.
Je crois qu'il buvait un peu d'alcool.
Oh, pas que ça, je pense.
Ouais, dans ce film, il y a une scène de culte où Van Damme, pour s'entraîner, n'a pas vraiment de salle de sport à disposition. Ouais. Et donc, il s'entraîne dans sa salle de bain, il décroche le bain, puis il le soulève comme ça et tout.
Ça n'a aucun sens. Mais ce qui est marrant, c'est que Dennis Rodman, il faisait partie de l'équipe des Bad Boys, des Pistons. C'était une équipe à la fin des années 80 qu'on appelait les Bad Boys parce qu'en gros, il tapait tout le monde. Il mettait des coups de coude, des coups de tête même. Enfin, ça partait toujours
Il y a toujours eu des équipes comme ça en Angleterre au foot, c'était Crystal Palace. Wimbledon.
Wimbledon, bah justement,
Wimbledon.
On va en reparler plus tard.
Ah bah oui,
Wimbledon.
On va en parler, yes.
Mais en tout cas, ce qui est marrant avec les Pistons, donc les Bad Boys, c'est qu'il y avait un autre Bad Boys célèbre qui s'appelait Spider, John Saley, qui était donc un Bad Boy de Détroit qui jouait dans les années 80 en même temps que Dennis Rodman. Et bah, il a joué dans deux seuls films, et je vous le donne en mille. Il était hacker dans Bad Boys, les deux films.
Les deux Bad Boys
de Michael Bay. Donc tu vois, on ne sait pas si c'était une blague ou pas, mais c'est quasiment ses seuls faits d'armes. Genre, le bad boy du basket était aussi un bad boys la vie. Ça, c'est marrant.
Et d'ailleurs, j'ai une question qui me vient à l'esprit. Est-ce que vous pratiquez des sports? Est-ce que Léo, toi, tu pratiques un sport?
Ben non, je vais juste à la salle, c'est tout.
Toi, tu vas là, tu pousses. Ouais, tu pousses.
C'est bien la salle.
Je pousse un petit peu, mais je fais pas mal de cardio aussi.
Ouais, t'essaies de développer un peu les abdos, les pecs, tout ça.
Écoute, ouais.
On voit qu'il s'y connaît quand tu essaies de développer un peu.
Toi aussi, Marion.
Écoute, non, moi, je ne développe absolument rien physiquement. Toi, Guillaume, tu fais du sport? Bon, je connais un peu la réponse, mais...
Ouais.
Ah oui, toi,
tu connais la réponse? Vas-y, donne-la.
Bah, c'est non.
Ah bah voilà.
C'est non, la réponse. Très bien, Aurélien.
Alors, si on reste toujours dans le basket, on a bien sûr le Shaq. Shaquille O'Neal. Ah oui. Là, je pense qu'on est quasiment sur le plus gros, la plus grosse carrière basket cinéma, hein, parce que quand même, on
Il a joué dans Scary Movie 5.
Ouais, 4 et 5, en effet. Après, à partir des années 2000, il joue quasiment toujours son propre rôle, vu qu'il est à moitié rigolo, basketteur, acteur, bon bah, jouer le Shaq, ça suffit. Mais dans les années 90, il nous a quand même fait Kazam, en 96, qui est une reprise de Aladdin, mais avec que le génie. Voilà, il joue le génie qui sort d'une bouteille, ça n'a aucun sens, il est habillé en baladin de l'espoir, c'est catastrophique. Et après, il a quand même relancé les super-héros, parce qu'en 97, il joue dans Steel. Dans lequel il joue Monsieur Steel,
je connais pas.
Qui est une sorte de super-héros qui ressemble à Monsieur Freeze dans Batman et Robin, tu vois.
Un direct qui est vraiment DVD.
Qui est vraiment le meilleur Batman.
Direct to DVD, non
Non, c'était un vrai film. Ah et, oui, tout. Et en plus, ça sort en 97, à l'époque où il est vraiment encore en pleine carrière avant qu'il reprenne les Lakers. Donc c'est ça qui est assez incroyable avec Shaquille O'Neal. Et bien sûr, dans le basket, sinon, on a Jordan qui fait Space Jam, bien entendu.
Avec tous les autres.
Plus niche.
Ouais, il y a LeBron aussi qui joue son propre rôle dans le film avec Amy Schumer. Train Wreck et Kevin Durant aussi. Enfin, il y en a pas mal qui ont fait des directs ou DVD où ils jouent leur propre rôle, donc c'est un petit peu moins intéressant. Mais sinon, savez-vous, quel est le sport où il y a le plus de sportifs de haut niveau qui sont passés du côté film, movies?
C'est le football américain.
Moi, je dirais le catch. Moi.
Ouais
non.
Moi, j'aurais dit... Non, pas le foot, en fait, mais...
Ah ouais.
Ah non, la boxe.
L'escrime.
Eh bah, ben, c'est le bobsleigh. Non, je rigole. En vrai, c'est vraiment le football US. En effet, le football US. J'ai compté plus de...
On a parlé avant de...
J'ai compté plus d'une cinquantaine de grands sportifs de haut niveau qui ont eu après une carrière des fois très longue de plusieurs films. Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le foot US a vraiment cartonné dans les années 50-60. Donc, il y a des mecs qui étaient des méga stars. Mais en fait, le foot US, tu peux jouer que 10 ans. Sinon, après, tu meurs. Donc après, il y en a beaucoup derrière qui ont fait des énormes carrières. Et le premier qui va faire un retour sur nos fameux réalisateurs Zaz, c'est O.J. Simpson.
Bah oui.
Parce qu'on oublie souvent que O.J. Simpson, avant d'être un mec qu'on sait pas trop si son gant il lui va, s'il lui va pas bien, s'il lui va bien, et bah c'était un énorme running back, un joueur de football américain qui a joué très longtemps chez les Buffalo Bills entre 69 et 77, presque 10 ans, et il est très connu pour avoir joué dans les séries d'un Y a-t-il un flic, avec Leslie Nielsen.
Et d'ailleurs pour moi c'est sa scène d'introduction est la plus drôle du film, je sais pas si vous vous souvenez, c'est une scène où en gros il y a une réunion de mafieux ou de gangsters dans un bateau.
Dans un port,
et en fait lui c'est un flic, et sans faire exprès, il entre dans la salle, et en fait, il lui arrive plein de galères où il tombe, il met sa main dans la pâture fraîche, il s'électrocute, et en fait, il se fait tuer, mais il tombe sur plein de trucs. En fait, il souffre de ouf, quoi. Mais je l'ai très mal raconté, mais c'est très drôle.
De toute façon, dans tous les films, il lui arrive que des merdes. Après, il y a tout un délire où il est en fauteuil roulant et il valse complètement. C'est vraiment.
D'ailleurs, je recommande à tous ceux qui n'ont pas vu le documentaire sur la fameuse affaire O.J. Simpson.
Superbe.
Pas la fiction qu'il y a sur Netflix, même si elle est plutôt pas mal.
Ouais,
mais le documentaire est incroyable.
Le documentaire est complètement dingue. Et d'ailleurs, je pense que c'est peut-être pour ça qu'il est parti en vrille, parce qu'il s'est fait quand même vraiment péter la gueule dans The Naked Gun. Il s'est fait très mal, donc à un moment, il a fait n'importe quoi. Mais aussi, pour rester dans les films catastrophes, il a aussi joué dans La Tour Infernale.
Oui, c'est
un film des années 70 où tout part en sucette. Et en gros, il est vraiment parmi les grands joueurs de football, souvent noirs d'ailleurs, qui ont eu une carrière dans les années 70 ou début 80. Il y a un mec qui s'appelle Bubba Smith, que bien sûr en France personne ne connaît, qui a joué 10 ans en défensif chez les Baltimore Colts. Et bah, Bubba Smith, c'est Moses Hightower dans les 6 films Police Academy, pour rester dans les films un peu gaulerie, tu vois.
Très mal vieilli, je les ai revus il n'y a pas longtemps, enfin j'ai vu le premier.
C'est pas ouf.
Je trouvais ça hyper drôle quand j'étais petit et je l'ai revu et j'étais moins sensible aux vannes.
Bah, par rapport aux As, justement, c'est là où on voit qu'il y a un humour qui vieillit pas trop mal et un autre qui est vraiment catastrophique.
Ouais, ambiance les Charlots, quoi.
Ouais, voilà, c'est ça. C'est un peu la 7ème compagnie. C'est quoi pour les Charlots? Les Charlots, naze.
Les Charlots, c'est pas ouf.
7ème compagnie.
Non, j'adore la 7ème compagnie, moi.
Ok,
c'est bonne ambiance.
D'accord. Et alors, un autre grand. Alors, il y a un mec. Aux États-Unis, il l'appelle le meilleur joueur de l'histoire du monde, du football américain. Il s'appelle Jim Brown. Il a joué toute sa carrière chez les Cleveland Browns. Le mec, il rigole pas, tu vois. C'était un running back de fou dans les années 60 surtout. Et ben en fait, il joue dans les 12 salopards. Vous vous rappelez du seul mec, du seul noir du commando qui commence à tirer sur tout le monde et tout, qui est un des seuls qui vit jusqu'à la fin d'ailleurs, sans vouloir spoiler.
Ça spoilé complètement.
C'est clairement
tout à fait. Et on le retrouve, donc il devient un des personnages principaux dans tout l'univers de Tarantino, qui adore la Blaxploitation, parce que derrière, il va quand même faire énormément de films de Blaxploitation. Et ben c'est aussi lui qui joue dans Mars Attack. Vous vous rappelez le boxeur là qui met des coups de patate
À Vegas,
c'est Jim Brown. Et c'est aussi lui qui joue Frost dans Une vie en enfer.
D'accord.
Tu vois, c'est marrant parce que ces personnages, on sent que c'est des caméos.
Ouais.
Mais nous, on les connaît pas, quoi.
C'est
mais
ça.
C'est marrant à l'image. Mais je le connais ou pas, lui, parce que il apparaît vraiment comme un caméo. Quoi,
et
mais...
lui, il a fait plus de 100 films. Et dans les années 70, c'était même un rôle principal, tu vois, de Blaxploitation. Il a fait un film où, genre, il a une scène de sexe avec Raquel Welch. Et il disait, genre, c'était important pour moi de prouver qu'un homme noir pouvait être premier d'un film et en plus avoir une scène de sexe avec, genre, une superstar blanche, tu vois.
D'ailleurs,
c'était tout un truc.
D'ailleurs, je sais pas si tu l'as placé dans ta chronique, mais le fameux Sinog des Goonies.
Ah putain.
Ah là là là.
Ah putain.
Bah, vas-y.
Il spoil le mec.
Ah. Non, parce que comme c'était on voit pas son visage.
Ouais, c'était le prochain.
Vas-y.
Et ben voilà, John Matuszak, defensive end de 73 à 82 chez les Oakland Raiders, qui est une équipe qui est très représentée chez nos amis acteurs club de foot. Et ben j'allais vous le dire en mille, il a joué dans Sheriff Fais-moi peur, dans Miami Vice, dans Agence to Risk, mais surtout,
bravo.
C'est Sinoc dans les
sûr.
Goonies. Et lui, c'est pareil, il a eu un profil très bizarre, on l'a vu dans énormément de choses. Souvent, il joue une sorte de bagarreur et tout, mais son rôle le plus principal, c'est quand même Sinoc, dans lequel il avait beaucoup de dialogues. C'est vrai qu'il y a beaucoup de dialogues pour Sinoc dans les Goonies, c'est assez incroyable. On peut aussi parler de Carl Wheelers, qui était un defensive end très important des Oakland Raiders, encore, qui est n'autre que Apollo Creed, qui est passé du côté de la boxe. Et donc aussi Colonel Dillon dans Predator.
Exact.
Je sais pas si vous vous souvenez. Alors, lui, c'est pareil, c'était un grand personnage. Eh ouais. La fameuse poignée de main. Et d'ailleurs, il perd sa main dans Happy Gilmore aussi. Et Fred Dreyer. Vous vous rappelez de Fred Dreyer ou pas?
Non.
Et bah, Fred Dreyer, c'était un bête de defensive end au Los Angeles Rams de 69 à 1980. Et en fait, c'est Rick Hunter.
Ah, ouais. Rick Hunter.
Après, il a fait Rick Hunter de 84 à 91. C'était un énorme joueur de foot auparavant. Voilà, donc là, j'ai fait tous les joueurs de foot américains, mais souvent, on se demande, mais en fait, pourquoi il n'y a pas autant d'acteurs de foot
en France?
Juste du foot, quoi. Du football, tu vois, du football.
Ah oui, foot.
Bah, parce que ça joue mal, en fait, tout simplement.
Il y a Cantona. Cantona, il a fait des rôles.
Voilà.
C'est vrai, Cantona.
Il y a quelques Anglais. Il y a Eric Cantona, en effet. Et il y a Vinnie Jones, pour revenir sur le fameux joueur de Wimbledon qu'on retrouve dans pas mal de films de Guy Ritchie.
Ouais, c'est vrai.
Et il y a Beckham, il y a pas très longtemps, qui est apparemment poil de Guy Ritchie, qui se retrouve aussi à faire quelques rôles un peu catastrophiques dans pas mal de films. Et voilà, j'en garde une dernière pour vous. C'est, on va passer du côté aquatique. On va arrêter avec Guy Ritchie. Vous saviez ce qu'il faisait Jason Statham avant d'être acteur?
Ouais, il faisait de la natation synchronisée.
Eh ben non.
Il faisait du saut,
Il était champion de plongeon d'Angleterre.
Bravo.
Il a eu plusieurs médailles. Et c'est comme ça qu'il a été, en fait, à un moment où il en a eu marre. Et il a été repéré par Guy Ritchie à ce moment-là. Et il a joué dans le premier film avec Vinnie Jones, le fameux Fat Bouler.
D'ailleurs, on peut trouver des vidéos sur YouTube de lui en train de plonger. Il plonge extrêmement bien.
Ah, c'est un beau gosse.
Si il était champion, ouais.
Non, mais il fait des figures incroyables. C'est pas le vieux plongeon que tu fais à la piscine,
c'est
à Taco Bell.
À la piscine.
Ouais. Ah non, c'est un beau gosse du plongeon de fou.
Ah, c'est pas le même délire.
Et ouais, c'est une très bonne émission, putain, on apprend plein de choses.
Bravo. Ah ouais. Mais écoute, c'est l'ambiance, t'as le son
ça
de
bosse, clic. Ça bosse à fond.
Pour le coup, j'ai laissé tout le côté bagarre de côté parce que la bagarre, sinon.
Oui, parce qu'il y a les catcheurs.
Il y a les catcheurs, il y a les boxeurs.
Il y a Mike Tyson dans Very Bad Trip aussi.
Exactement.
En fait, si on rajoute la bagarre, c'est une émission entière. Donc,
mention spéciale quand même pour la présence d'Hulk Hogan dans Rocky 3.
Oui, oui, c'est
Hogan,
vrai, c'est vrai.
Qui affronte Stallone, et ça, c'était beau. Alors, un exercice qui a toujours été très compliqué, c'est de raconter à un pote une blague qu'on a vue dans un film ou dans un spectacle. En général, c'est toujours très mal raconté, et ton interlocuteur a souvent beaucoup de mal à saisir l'essence même de cette blague qui, toi, t'a fait beaucoup rire. On va donc se prêter à cet exercice, et je vais vous demander, messieurs, de nous raconter votre moment préféré dans Y a-t-il un pilote dans l'avion, ce qui vous a fait le plus rire. Alors, imaginez qu'on est des producteurs. C'est qu'en fait, on sera trois producteurs à chaque fois à tour de rôle. Il faut expliquer la blague. C'est ton premier film, c'est ton premier scénario. Et là, tu dois nous expliquer à nous trois producteurs la bonne blague du film. Donc vas-y, mets le contexte, raconte-nous ta blague préférée dans Y a-t-il un pilote dans l'avion. C'est toi qui l'as écrite, cette blague.
C'est marrant parce que, en plus, je me suis dit hier soir, après l'avoir vu, quelle est pour moi, en même temps, je réfléchis, quelle est pour moi la meilleure blague de ce film, et en tout cas, celle qui, moi, me fait le plus rire, c'est à la fin quand.
Alors, on est producteur, on écoute, vas-y.
Ouais. Et donc, quand le docteur, ils sont prêts à atterrir, évidemment.
Ah, mais non, mais je sais, c'est celle que j'ai raconté.
C'est l'horreur. Et
pensez à votre blague, vous.
Et donc, le docteur entre dans le cockpit et il leur dit, alors que vraiment, c'est la pagaille, quoi. Ils sont prêts à cracher, c'est horrible. Il leur dit, bon, bah, écoutez, je vous souhaite bon courage. Et qu'est-ce qu'il dit?
Il dit, votre sort est entre nos mains.
Voilà.
Notre sort est entre vos mains. Je vous souhaite bon courage à tous.
Et il referme. Et donc, voilà, c'est drôle. Et ils atterrissent, et ils rentrent, ils refait la même phrase. Ouais, écoutez, notre sort est dans vos mains, je vous souhaite bon courage. Et il repart. Et ça, pour moi, c'est tellement con, mais c'est...
Il le fait trois fois, en plus. C'est très
drôle. Ouais, alors, est-ce qu'il a bien drôle. Expliqué cette vanne?
Non.
Ouais,
bah parce
non,
que j'ai dû la demander. J'ai dû demander la phrase exacte.
Mais ouais, pour moi, c'est ça. C'est Leslie Nielsen qui fait cette vanne. Et d'ailleurs, une autre blague qui est marrante, c'est que, en fait, quand... Quand quelqu'un dit est-ce qu'il y a un docteur dans cet avion? Oui, moi. Et en fait, il a un stéthoscope. Qui se balade avec son stéthoscope?
C'est sa voisine qui dit je crois qu'il est docteur. C'est ce que genre en fait, elle a vu qu'il est là. Oui, en effet, c'est vrai, mais comment vous le savez?
C'est
genre.
C'est génial.
Ok, Aurélien, on est producteur. Raconte-nous la meilleure blague du film.
La meilleure blague du film, pour moi, justement, c'est quand donc le pilote. On va dire qu'il va aider à sauver cet avion est tout le temps en train de raconter sa vie. Et qu'à chaque fois, le mec qui est à côté de lui, on a rien à foutre. Et pour le coup, il se suicide. Et pour le coup, t'as une suite de suicides du nimp. Et genre, en plus, hyper.
Toujours plus violent, en plus.
Ouais, et puis super stéréotypé. Tu vois, genre, il y a un japonais, il va se faire ses poukous. Après, il y en a un, il se brûle, tu vois. Genre, en plus, c'est des stéréotypes vraiment nuls, débiles. Ouais, et pour le coup, à chaque fois, tu as envie de rentrer dans son histoire. En plus ça va et plus il voit des choses, tu sais, qui n'ont rien à voir. Tu sais, c'est toujours avec son truc d'avion. Et à un moment, tu vois carrément l'histoire de l'aviation. Ça n'a aucun sens. Et ce truc un peu running joke et tout, avec toujours le mec à côté qui veut se foutre en l'air, je pense que c'est ma blague préférée.
Et toi, Guillaume?
Bravo. Moi, je pense à une blague en particulier, je pense à deux blagues en particulier, mais une qui est très courte, mais c'est que c'est un running gag qui revient souvent, c'est des quiproquos de mots, en fait, ou de questions. Par exemple, il y a le médecin et l'hôtesse de l'air, et le médecin, il dit, il y a une patiente qui est très malade et il dit, elle est très malade, il faut absolument qu'on la transporte à l'hôpital. Et l'hôtesse de l'air, elle dit, ah, mais qu'est-ce que c'est? Fait, ah, c'est un grand bâtiment avec plein de patients.
Ça, là, je la fais tout le temps, j'adore.
Et il y a une autre blague, en fait, qu'on pense pas souvent, c'est pas dans l'avion, justement, c'est dans la tour de contrôle. Et il y a un moment, tu sais, il y a ce mec un peu farfelu, chauve, un peu gros, qui dit n'importe quoi tout le temps, tu sais. Et genre, il y a un moment où ils font, ah, l'avion a perdu de l'altitude, ou un truc comme ça. Et lui, on voit la caméra qui tourne sur lui et il fait « Oui, et Georges a pris du bide
!» Ah oui, je pensais à lui, il le pense. «
Oui, Georges a pris du bide !» Et ça, c'est tellement drôle.
Moi, j'ai revu le film là pour les biens du podcast et en fait, il y a une blague que j'adore et que j'avais pas trop saisi, enfin, que j'avais pas capté à l'époque, je m'en souvenais plus vraiment. En gros, il y a des flashbacks parce qu'il se rappelle de sa vie d'avant avec sa copine, le pilote, et il se rappelle d'un moment où il était dans la brousse en train de jouer au basket, etc. Et sa meuf veut plus vraiment vivre là-bas, donc elle lui dit « Moi, je vais retourner aux États-Unis ». Et là, il comprend que ça va être compliqué, sa vie de couple avec cette meuf. Et il dit « Et c'est à ce moment-là qu'ont débuté mes problèmes de boisson ».
Mais oui, les problèmes
de boisson. Sauf qu'en fait, les problèmes de boisson, c'est pas qu'il a commencé à boire de l'alcool, c'est qu'il sait pas boire, en fait. Donc à chaque fois qu'il essaie de boire, il se fout le liquide dans la gueule.
Il vise à côté.
C'est ça, ses problèmes de boisson, en fait. C'est pas du tout l'alcool.
Ah, c'est génial.
Quel bon film.
Non, mais c'est ma blague préférée.
Tu vois ce qu'on fait là? Alors, je sais pas si les auditeurs ont trouvé ça drôle, ce qu'on racontait. Tu vois, mais ça me fait penser à, tu sais, cet exercice de dire tu racontes une blague d'un film, etc. C'est comme on fait à chaque fois, c'est quand un pote sait faire une imitation et qu'en public tu lui dis vas-y, fais-la, c'est marrant et tout. Et à chaque fois il la foire, tu vois. Par exemple, si je te demande ton imitation de Renaud, par exemple.
Ah, tu veux me lancer là-dessus?
Ah, oui.
Ah oui, non, mais attendez, parce que là on s'écarte du sujet du podcast, mais en fait on était
en dans le thème.
On était au festival Frames avec Guillaume.
Elle est cute.
Et en fait,
il sait tout faire. Non! Tu vas me faire mieux que ça, tu vas me faire le prochain lancement en parlant en Renault.
Ah, tu veux le fasses? Ah ouais. Je le ferai. Non, parce qu'en fait, Guillaume, alors pour commencer, petite introduction, Guillaume imite très bien Christophe Maé. Donc c'est comme ça que ça a commencé, en fait. C'est qu'il l'imite très bien. Et après, moi, je me suis découvert une imitation là-bas, on était dans un Airbnb. Et un matin, on se réveille, puis j'ai balancé cette imitation, et finalement, c'était la révélation, quoi.
Mais je pensais qu'il y avait Renault dans l'appart.
Alors, on va commencer avec Christophe Maé, bien sobrement.
Ah ouais, Christophe Maé, j'ai fait qu'un seul mot.
Mais tu le fais si bien.
J'avoue.
Oh
ouais,
oui.
C'est beau, bah,
oh,
ok.
C'est beau, bah, oh là là là.
Pas mal
un petit garou là.
Ah, non, pas garou, je suis con. Est-ce que d'ailleurs toi tu as une petite imitation?
Ouais,
j'en ai une petite.
Mais comme beaucoup savent le faire, je sais
Sarkozy,
faire
non
Aurel San en interview.
Ah ouais.
Ah, pas mal.
Je sais pas du tout faire ça.
Ouais.
C'est quoi?
Attends, je me concentre.
Ah ouais, c'était cool.
Oh, 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 ah, pas mal.
Pas mal.
Aurélien, t'es obligé d'avoir une imitation, même si tu sais pas en faire, faut que tu en fasses une.
Ouais, non, là j'ai rien, mais vas-y, fais.
Alors, Guillaume me met beaucoup trop de pression parce que faut savoir
pression,
que. En plus, le pire, c'est que Guillaume est très fan de mon imitation de Renault, mais à chaque fois que je la fais en public, les gens disent ouais, non, pas ouf. Et il y a que Guillaume qui fait mais non, vous êtes fou. Il le fait trop bien.
À chaque fois, je la vends de ouf. Vous rigolez ou quoi?
Ok.
Il a pas envie de le faire.
Donc, Attends, je vais.
Fermez les yeux, c'est
je vais. J'y vais, j'y vais. Les libérations. Arrête, j'arrive. Je... Les libérations. Ils adorent Vincent Delerm. Oh les bobos.
Oui. Ah, oh putain.
Alors.
C'est bluffant, putain.
Ouais, c'est bluffant.
Mais ça a pris un tournant.
Ouais. C'est bluffant.
Toi, tu t'excuses pour les gens qui prennent l'avion, mais là, ils passent leur meilleur vol, les gens-là. Qui écoutent le podcast.
C'est toujours la même phrase.
C'est toujours la même phrase. Je sais dire que celle-là. Ils lisent Libération, ils écoutent Vincent Delerm, les bobos.
C'est vrai, c'est la phrase culte.
Mais c'est la phrase culte.
Ah, bravo.
Je sais
même
pas si c'est dans une chanson, d'ailleurs, cette phrase.
Merci pour ça.
Et pour régaler Guillaume, je vais faire mon prochain lancement en faisant Renault.
Ah ouais.
Quelques infos vidéo-storiennes sur le film.
C'est une tristesse sans nom.
Figurez-vous que David Letterman et Sigourney Weaver ont passé le casting et se sont fait enfouler. Voilà, j'arrêterai là quand même, parce que c'est très relou toute l'émission.
C'est intenable toute l'émission, mais franchement, c'est bluffant. C'est bluffant.
Oui, donc Sigourney Weaver et Letterman ont passé le casting de l'émission, quelques petites infos comme ça, vidéo-storiennes, et se sont fait refouler. Sigourney Weaver devait jouer le rôle de la fameuse hôtesse. Et ça aurait pu être pas mal avec elle aussi.
Ah ouais, ouais grave.
Autre info, que le petit garçon de 9 ans ne comprenait rien à ce que lui disait l'acteur Peter Graves lorsqu'il mentionnait des films de gladiateurs, etc. Bah, le petit, il captait pas en fait.
Ouais, il captait pas la blague.
Alors que c'était
bah,
des
oui.
bonnes blagues de pédophiles en vrai.
Oui.
Mais ouais, mais il y a plein de trucs problématiques dans le film en fait.
Quand même. Ouais. Et d'ailleurs, j'ai repensé à un autre truc problématique dans le film, c'est qu'il y a une scène qui est pourtant extrêmement drôle, de la meuf qui se prend plein de coups. Je pense pas qu'on pourrait refaire cette scène.
On en parlait juste avant le podcast, c'est ce que disait Léopold. Il disait il y a plein de scènes qui pourraient plus exister aujourd'hui.
Exactement.
De toute façon, on peut plus rien dire.
Bah, c'est un peu ce que, c'est un peu ce qui se passe. Oui, bien évidemment, il était trop petit pour comprendre le message caché. Autre info, dans le film, il y a Mike de Breaking Bad lorsqu'il était jeune. On se le rappelait avec Guillaume par WhatsApp il y a quelques jours. Ouais, il joue, il est dans la tour de contrôle.
Ouais.
Ah bon?
Et en gros, il a un petit rôle. En gros, il est le commentateur sportif de la descente de l'avion.
Ouais.
Je sais pas si tu te souviens de cette vanne. En gros, il raconte la descente de l'avion en façon commentateur sportif. Bah, c'est Mike de Breaking Bad qui joue aussi dans le Flic de Beverly Hills.
Ouais.
On est toujours très étonné quand on le voit jeune dans des films. Autre info, celle-là je l'adore. Leslie Nielsen avait acheté pour $7 un petit appareil qui produisait des sons de paix et qu'à chaque réplique de ses camarades de jeu, il l'actionnait. Ouais, donc il actionnait sa petite machine et il la garda, il garda cet appareil toute sa vie et il l'utilisait fréquemment durant des interviews.
Il avait l'air fou quand
même. Ah mais attends, mais je l'ai vu ça.
Ah oui.
J'ai vu une interview avec qui avec
bah, Leslie Nielsen. Oh,
oui, non mais Leslie Nielsen dans un talk show américain où justement il lui demande de servir de sa machine et il fait un paix en direct.
Mais il a toujours sa petite machine à paix, il l'actionne tout le temps.
C'est avec Samina Seri, je crois.
Ce mec, il a pas eu la carrière qu'il devait avoir, hein, franchement.
Quand même, il a une belle carrière.
C'est toujours, il a fait que ces films-là en fait. J'ai l'impression.
Non. Avant, il joue dans Planète Interdite, figurez-vous.
Non mais en vrai, Léopold a un peu raison dans le sens où je me suis renseigné sur sa carrière sur Wikipédia avant de préparer l'émission. Et en fait, j'étais assez surpris de savoir qu'à la base, ce mec, il a une carrière très d'acteur dramatique.
C'est-à-dire
qu'il faisait des pièces de théâtre, des films, mais toujours des rôles très dramatiques. Et c'est les As donc, qui lui ont dit, en fait, t'as un vrai potentiel comique. Et après,
fort.
C'est devenu un génie comique assez incroyable.
Mais trop cantonné à des Yatil, des Scary Movie, tout ça.
Exactement. Et donc, voilà, il a gardé cet appareil jusqu'à la fin de sa vie. Leslie Nielsen, qui nous a quittés en 2010. Et si vous aimez ce genre d'humour, les Y a-t-il un pilote dans l'avion? Y a-t-il un flic pour sauver la reine? Etc. Je vous conseille la série Police Squad, dans laquelle il joue, et qui a inspiré toute la série des Naked Gun. C'est une série assez méconnue, mais c'est
D'épisodes, je crois, non?
Non, pas beaucoup d'épisodes.
Il n'y a qu'une saison,
ouais. Ouais, mais c'est très drôle. Il y a des vannes. Je me rappelle d'une vanne qui était vraiment marrante, où en gros, il joue un flic, il a toujours un partenaire avec lui, Leslie Nielsen, et on est, il dit à son pote, il y a une sorte de fusillade, il dit couvre-moi, et en fait il prend une couverture, puis il lui met dessus, mais du coup il sait plus où il va, donc il se prend les poubelles, etc.
C'est la même bonne quand elle propose de la lecture à une dame dans l'avion, et elle lui dit, vous avez pas un truc plus léger? Et elle lui donne juste un prospectus.
Ouais,
un prospectus.
Le truc premier degré, ça c'est tellement les meilleurs blagues en général.
Tellement drôle. Alors, petit aparté sur l'humour qui caractérise Y a-t-il un pilote dans l'avion? Toi, je sais, Léo, que c'est un humour que t'aimes beaucoup, l'humour absurde,
ouais,
premier degré, comme ça.
À fond, et c'est, ça m'attriste de plus en voir au Cinoche. Les derniers, c'était Scary Movie, j'ai l'impression, mais en fait, plus ça allait, moins ça marchait. Même, ils sortaient même plus en salle, je crois. Enfin, si, mais que aux États-Unis.
Ouais.
En France, on les voyait pas, sauf même pas en VOD, je sais même pas, je crois que ça marche même plus. Et ça m'attriste parce que moi, c'est mon humour préféré, l'humour absurde. Et sinon, tu le retrouves dans des trucs genre un peu encore man, mais tu vois, ces films, Y a-t-il un pote dans l'avion, où vraiment il y a un gag toutes les 10 secondes, voire même plusieurs en même temps, il n'y en a plus. Parce que tu vois, encore man, c'est pas forcément ça. Il y a un peu cette idée d'humour absurde, mais ces gags, genre dans La Cité de la Peur, ces films-là où il y a les gags tout le temps, ça me manque trop.
Et surtout, un truc qui n'y a plus vraiment aujourd'hui et qui faisait la particularité de Y a-t-il un pilote dans l'avion, c'est que c'était un film parodique. Donc il y avait eu toute une mode de films qui parodiaient des films déjà existants. Mel Brooks l'avait fait beaucoup aussi, il y avait eu Sacré Robin des Bois, il avait aussi parodié Frankenstein, Spaceballs qui parodiait Star Wars. Même dans La Cité de la Peur, il parodiait des films. Et d'ailleurs, les nuls avaient l'habitude de parodier des films dans Les Nuls l'émission. Ils avaient parodié Robocop, La Mouche, comme ça, plein de films. Les Inconnus le faisaient aussi.
Hot Shot. Non, c'était des films qu'on regardait tout le temps quand on était petit. Et c'est vrai que maintenant, il n'y en a plus trop, en fait.
Il y avait un film que j'adorais, qui était un peu passé inaperçu. Et si tu n'as pas vu ce film, Léo, tu l'adorerais. Mais je trouve que je l'avais peut-être déjà conseillé, on en avait peut-être déjà parlé avant. C'est un film qui s'appelle Alarme Fatale.
Oui, tu me l'as conseillé, je ne l'ai pas encore vu.
Mais t'adorais ça, incroyable. En fait. C'est un film, tu l'as vu, Guillaume, toi ?
Non, mais je connais le nom,
mais tu vas rigoler, c'est trop bien. C'est un film qui parodie L'Arme Fatale et plein d'autres films. C'est avec Emilio Estevez et Samuel L. Jackson, qui est extrêmement drôle dans le film. Et moi, il y avait un truc qui m'avait marqué quand j'étais petit, c'est que sur la jaquette de la cassette, il y avait écrit un gag toutes les 15 secondes. Et c'est ce que tu disais tout à l'heure, il y avait un gag toutes les 10 secondes. Et je me souviens qu'à l'époque, j'avais compté s'il y avait un gag toutes les 15 secondes, et c'était vrai en fait. Il y avait une vanne toutes les 15 secondes et une bonne vanne. Et c'est vrai que cet humour n'existe plus vraiment aujourd'hui. J'ai l'impression que parfois ça avait été un peu remplacé par un humour trash.
Ouais, mais comme tu disais, je pense que les héritiers, c'est un peu Will Ferrell. C'est genre le seul truc qu'on peut se rapporter à peu près à ça, comme Anchorman, etc. Mais c'est vrai que
c'est un peu plus scénarisé en fait.
Ouais.
J'ai retrouvé un peu de cet humour dans cette super série de Will Forte qui s'appelait The Last Man on Earth. Où il y avait cet humour un peu. Ambiance absurde, parodique, etc.
Mais dans The Other Guys, il y a un peu ça, avec Will Ferrell et Mark Wahlberg et tout, il y a un peu de...
Mais c'est moins hystérique, en fait, c'est ça que je veux dire.
Oui.
Vraiment, là, c'était film sous côte que du débile, etc. Et je pense que là, maintenant, c'est plus... On a l'impression que c'est de l'humour. Genre, Will Ferrell, je pense qu'il kifferait faire un truc comme ça, mais que t'as des producteurs derrière qui font... Faut quand même qu'il y ait un happy end, faut quand même
C'est plus un humour de stand-upper, je pense, maintenant, de comédien, qu'un humour de scénariste. Alors que là, on voit que c'était les scénaristes qui tiraient tout. Et en gros, ils mettaient les acteurs, mais il n'y a pas un acteur qui est plus qu'un autre, en fait. Alors que maintenant, je pense que l'humour, il est plus basé sur la force du comédien et son humour à lui, déjà. Et l'écriture, elle est faite autour. Quoi.
Et surtout
autour
aussi,
Will Ferrell, autour Steve Carell.
C'est un humour... c'est un humour qui n'était pas sur des rails à l'époque, y a-t-il un pilote dans l'avion, parce que ça faisait un peu dénoter avec tout ce qui sortait à l'époque. Et là, comme on disait tout à l'heure, y a des vannes absurdes toutes les 30 secondes. Et du coup, ça, c'est un truc qu'on voyait pas. Et comme tu le disais en début d'émission, il n'y avait pas vraiment d'histoire en vrai. Enfin, il y a une histoire dans le sens où il n'y a plus de pilote, mais ça part dans tous les sens. Il y a des flashbacks, il y a des vannes. En fait, tout est matière et tout est excuse à placer des vannes, en fait.
Y a, en parlant des films parodiques, ou, etc., on peut quand même rendre hommage à La Tour Montparnasse Infernale.
C'est vrai.
On parle souvent de La Cité de la Peur, mais je pense que c'est à peu près c'est vraiment les mêmes rêves.
Ça parodie un peu Piège de cristal, tout ça, tout plein de films.
Mais c'est vrai que je suis pas sûr que ça marche. Enfin, j'ai l'impression que les producteurs aujourd'hui, ils ont peur que ça marche pas, ce genre de film. Mais à l'époque, Y a-t-il un pilote dans l'avion, ça avait fait 3 millions en France.
Ouais,
c'est énorme.
Un carton,
c'est énorme. Et aujourd'hui, moi j'ai cru qu'avec Le Manoir, ça allait être ça. Il se trouve que c'est pas dans ce genre d'humour. Et
après, ils ont essayé, parce que je crois que j'avais lu une interview de Kumar qui disait que lui c'était un gros fan de Scary Movie.
Ouais.
Et que justement, c'était son inspiration première pour le film.
À la fin, avec Willy Denzey, tu vois, il y a ça, tu vois, où c'est complètement con, tu vois.
Ouais.
Et c'est drôle. Mais on en veut plus dans le film, tu vois.
Astérix aux Jeux Olympiques, c'est pas un peu ça, Astérix aux Jeux Olympiques ?
Non, mais celui de Chabat, dans le fond.
Ah oui, Chabat,
voilà, Chabat, évidemment.
Oui, bien sûr, Chabat.
Évidemment. Ouais. Mais bon, après, il y a quoi ?
Après, il y a quoi ? C'est vrai, il a raison.
Il y a rien dans ce genre-là.
Mais il y a un truc où j'ai l'impression aussi que maintenant, on a l'impression, surtout, on se dit qu'en France, ça marcherait pas. Et je me suis souvent dit ça, je reviens à Will Ferrell, mais tu sais, les films de Will Ferrell, Anchorman 2, il est sorti un été, il est resté 2 semaines. Tu sais, il les pousse jamais ici. Quoi, tu vois.
Bah, te rappelles le film qui est sorti avec Will Ferrell et John C. Reilly sur Sherlock Holmes, je crois, si je dis pas bêtises.
Je l'ai vu, c'est pas son meilleur, mais il est quand même jamais sorti.
Il est bonne vanne quand même dans ce film ou pas ?
Ouais, c'est toujours pareil, c'est toujours méga débile.
Ouais.
Mais.
Même Step Brothers, en vrai, il n'est pas sorti très longtemps.
Il n'est jamais sorti, tu vois, on ne les voit pas ici.
Ouais, mais pour moi, ce n'est pas le même humour que Y a-t-il un pilote dans l'avion et tous ces films-là.
Ouais, c'est
un humour bête, qui est hyper drôle, hyper écrit,
mais
ce n'est pas un humour parodique et absurde. Il y a quand même de l'absurde, mais pour moi, je ne mets pas dans la même case.
Plus Dumb and Dumber, quoi.
C'est plus transitionner. Pour transitionner, est-ce qu'on peut mettre de l'espoir sur le prochain film des youtubeurs qui s'appelle
Mais tu me lances
mec.
Parfaitement. Aïe. Parce que j'ai appris il y a quelques jours qu'allait sortir un film qui n'est pas forcément un remake de Y a-t-il un pilote dans l'avion, mais qui est un film qui est composé exclusivement de gros youtubeurs américains. Alors dedans, il y a Logan Paul, il y a Kazenesta, tout ça. J'ai vu la bande-annonce, ça a l'air dramatique.
Ouais, mais c'est pas un remake, mais ça reprend l'affiche.
Alors voilà, le remake est dans l'affiche, parce que l'affiche originale, comme tu dis Guillaume, on pouvait voir un avion dessiné qui faisait un nœud.
qui est magnifique.
Qui est magnifique.
Elle est magnifique, cette affiche.
Que t'as en poster, d'ailleurs.
Je l'ai en poster, affiche originale.
Bravo.
Très, très grand format dans ma chambre.
Ouais. Et là, Guillaume, tu vas nous dire ce que sera le prochain poster de ce film de YouTuber.
Je avoue que c'est donc le même avion, dessiné à peu près pareil, dans les mêmes couleurs, etc. Mais qui fait un dab.
En 2019.
Parce qu'on est quand même en 2019. Ouais. C'est déjà ringard, donc je sais pas à quel moment ils ont eu l'idée de faire ça.
Vous avez vu la bande-annonce du film, c'est donc des influenceurs qui prennent l'avion pour une convention, ou je sais pas.
Ouais.
Et qui ne mettent pas leur avion en mode avion au décollage. Et du coup, ça sème la pagaille. Et j'ai parlé à un aviateur qui m'a dit que le mode avion, le mettre ou pas, on s'en fout complètement. Ouais. Ça ne changera rien pour eux. Je ne sais pas pourquoi ils le demandent.
Mais en vrai, c'est une bonne vanne. J'ai vu la bande-annonce. Et en vrai, c'est une bonne vanne. L'idée de croire que quand tout le monde se met... on enlève le mode avion, bah ça défonce le cockpit.
Oui.
Ça, en vrai, c'est une bonne vanne, ça. Mais après, le reste de la bande-annonce que j'ai vu, c'est pas ouf. Mais
en vrai,
c'est un remake dans le sens où les deux pilotes se retrouvent électrocutés ou un truc comme ça. Donc ouais. En vrai, c'est un remake, en fait.
Mais j'ai pas l'impression qu'on va retrouver le même humour. Hein.
Non,
dans la bande-annonce, en tout cas, il y a zéro vanne.
Mais déjà, le Gunpole, j'ai un peu de mal. Donc,
Bah oui, bien sûr.
Il est pas drôle, lui.
Bah, non. Mais lui, il essaie un peu de tout faire, quoi. De la boxe, de l'acting.
Ouais, il fait n'importe quoi.
Mais écoute, il sort en France.
Bonne question.
Je vais faire un beat total en France.
Mais je sors sur YouTube. Non.
Ah ouais.
Je sais pas.
Non, parce que non, je crois pas. Mais je le regarderai évidemment. Ouais. Mais bon.
Est-ce qu'on se promet pas qu'on va tous le voir au ciné ensemble?
Ouais.
Allez, c'est parti.
Et on
peut enchaîner.
Tous les auditeurs du podcast.
Non. Ben non. Alors les mecs, on approche malheureusement de la fin de ce podcast.
Hors de question.
Mais oui. Mais avant de se quitter, je vous ai sélectionné des histoires insolites qui se sont produites dans des avions. Et le but du jeu, ça va être de me dire si ces histoires sont vraies ou non, car il y en a au passage qui n'existent pas.
D'accord. Hein?
D'accord. Donc faut être à l'affût.
Ouais. Je suis à l'affût.
Vous êtes à l'affût, c'est bon. Donc à chaque fois, vrai ou faux. Le 12 février 2014, durant le vol Birmingham-Belfast, au moment de tirer le manche pour lever le nez, un pilote a perdu sa prothèse de la main, étant dans l'incapacité de reprendre le contrôle de l'avion.
Non, c'est pas possible. Tu peux pas être pilote si t'as qu'une main.
C'est faux.
Est-ce que cette info est vraie ?
C'est pas vrai.
Cette info est fausse.
C'est faux.
Aurélien ?
Peut-être que personne savait qu'il avait qu'une main.
Non, mais il faut avoir une vue genre parfaite de chez parfaite. Donc j'imagine que quand t'as qu'une main, tu peux pas piloter.
Eh bien, figurez-vous que c'est vrai.
Oh.
C'est une vraie info. Vous êtes tombé dans mon piège. Et ça, j'aime. C'est une vraie info. Je n'ai pas plus d'infos là-dessus, mais c'est une vraie info. Non, mais après, en fait, son copilote a réussi à reprendre le contrôle. Il a remis sa prothèse. Et puis voilà, tout est rentré dans l'ordre. Mais
tranquille.
Mais voilà, il a perdu sa prothèse.
Incroyable.
Voilà. Et d'ailleurs, je crois qu'il y a une blague dans Y a-t-il un pilote dans l'avion où au début, on leur demande d'enlever leurs objets métalliques.
Ouais.
Et il y a un type qui enlève son bras.
Ça,
il enlève tout. En 1985, un type a hijacké un Boeing 737, entrant dans le cockpit avec un flingue. Très vite, la police est entrée en contact avec lui et ses exigences étaient très claires. Il voulait une bière.
Oh, ça c'est vrai, ça.
C'est vrai.
C'était les mecs qui portent des pyjamas.
Attendez, non,
c'est vrai ou faux ?
Je vais dire que c'est faux pour changer.
Ouais, t'as envie de changer,
faut pas dire comme.
Je dis vrai.
Non, c'est K-pop, ça.
Ouais. Eh bien, c'est vrai, figurez-vous.
Oui, moi, je perds à chaque fois.
C'est
tout.
Tu perds,
alors, c'est pas grave.
À chaque fois, hein, c'est un truc de ouf.
Oui, bah, c'est. On s'amuse avant tout, non ?
Oui, c'est vrai.
Putain.
Aucun des 115 passagers n'a été blessé et l'avion a atterri calmement à Oslo où le type a été instantanément arrêté par la police.
Est-ce qu'il a eu sa bière ?
Il avait pas eu sa bière.
C'est incroyable, il avait juste appuyé sur le bouton qui est au-dessus de lui pour demander.
Exactement. Et il avait juste à prendre un jus de tomate aussi, en vrai. Il aurait eu beaucoup moins de problèmes. Vous voyez les petites couvertures qu'on vous donne là pour dormir en plein vol?
Elles sont pas assez chaudes.
Hein? Elles sont pas assez chaudes. Hein?
Bah non.
Eh ben figurez-vous qu'elles sont lavées toutes les 30 jours, là où vous pensiez que c'était des nouvelles à chaque fois. Vrai ou faux?
Non, c'est faux ça.
C'est faux?
Elles sont scellées à chaque fois.
Ouais, c'est scellé.
Non.
Eh bien c'est vrai!
Quoi?
Non,
c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. En fait, ils les remettent dans des papiers plastiques. Et
il
en gros, il a foule et il les lave une fois par mois en fait.
Attends, mais c'est dégueulasse.
Et ouais, non, c'est la sensation de ce podcast.
Qu'est-ce qu'il y a, personne se mouche avec ça. Qui se mouche avec ça? C'est juste que tu la mets sur ton. Franchement, bon, c'est pas si sale.
Ouais, c'est relou, franchement.
C'est pas si sale.
Non, c'est dégueu.
C'est sale.
Tu peux t-shirt, c'est dégueu ici.
Imagine ton t-shirt, tu te mets ça sur toi et tout. Il y avait un mec qui l'avait autre chose avant.
Une bonne gale.
Non.
Non, si, c'est dégueu. Mais tu trouves ça dégueu ou pas?
Moi, ça me fait chier de savoir ça.
Ça te fait chier, hein?
Ouais, je suis
chiant. Tu repars un peu déçu de ce podcast.
En revanche, ça me dérange pas de poser la tête sur un siège où tout le monde a posé sa tête.
C'est vrai aussi.
Ça vous
dégoûte
pas,
ça. C'est un bon point.
Il y a les cheveux.
Et au cinéma, vous posez votre tête où? Et ben voilà.
C'est un autre bon point qui marque ici. Bravo. Et donc, c'était vrai. En 2013, un Américain nommé Tom Wagner s'est endormi en plein vol. Et lorsqu'il s'est réveillé, il était tout seul, enfermé au milieu d'un immense 737 entreposé dans un hangar. Il avait été oublié par le personnel.
La réponse est non, et je vais dire pourquoi il n'y a pas de Top Wagner aux États-Unis. Désolé.
Donc pour toi, c'est faux. C'est faux.
Je pense que, à moins qu'il soit endormi sous un siège, ça paraît compliqué quand même.
Il y a trop de réponses vraies depuis le début. Je pense que c'est faux.
Tu penses que c'est faux?
Ouais.
Eh bien, c'est vrai, t'as encore faux.
Putain,
ouais,
payé.
Mais il n'y a rien de faux, nickel,
alors, de c'est couillé, là. Merde. Il n'y a rien de faux, alors.
C'est un fiasco. Non, ça va finir pareil.
Mais il s'était caché où pour qu'il ne le retrouve pas comme ça?
Mon idée, c'était de vous dérouter. Vous ne savez plus quoi faire. Vous savez plus c'est vrai ou c'est faux.
Je ne sais plus mon prénom, là.
C'était une compagnie très compétente, en tout cas.
Ben oui, mais figurez-vous que il lui restait un peu de batterie sur son téléphone. Il a pu appeler sa femme. Il a appelé sa femme avant d'appeler la police. Sa femme a appelé la police et il a été dédommagé à hauteur de combien, selon vous?
100 balles, comme...
comme Kevin Smith, 100 balles.
180 euros en bon d'achat.
Putain, mais il a mieux Kevin Smith.
180 euros en bon d'achat. Autant vous dire qu'il s'est fait carotte.
Ah oui, complètement.
Ouais. Il s'est fait carotte.
Est-ce qu'on peut en avoir au moins une fausse, qu'on puisse voir que t'as bossé?
T'es dérouté, hein. T'es dérouté ou pas? Est-ce que t'es dérouté?
Ça veut dire si je me cache dans les chiottes et que après, genre, on me retrouve dans. Je peux gagner 180 balles.
Hey, c'est une bonne technique,
deal.
Ça.
Non, hein,
bon deal.
Ça peut
c'est
se faire, ça.
C'est une bonne technique. Voici désormais l'histoire. Vrai ou faux? Voici désormais l'histoire d'un Suédois. Bon. L'aurais-je inventé?
Ouais, tu l'as inventé. déjà quand il n'y a pas de nom.
Il n'y a pas de date.
Ah, il n'y a pas de date, il n'y a pas de nom.
Voici désormais l'histoire d'un Suédois nommé Thomas Salm.
Oh, oh, ah,
nom. Ah, le nom est compliqué. Est-ce que je l'ai inventé ou pas?
Ah ouais.
Thomas Salm, qui dans les années 90 a transporté des milliers de passagers alors qu'il n'avait aucun diplôme de pilote.
Non, ça c'est vrai. Ça, c'est vrai.
En gros, tu peux me laisser. Tu me casses mon. Là, je suis tout enthousiaste, mais tu viens me foutre le doute. En gros, il avait. Qui a transporté des milliers de passagers alors qu'il n'avait aucun diplôme de pilote. En gros, il avait juste un simulateur de vol sur son PC. Il s'est entraîné à fond tout seul chez lui, à falsifier des diplômes avant d'être un jour démasqué. Vrai ou faux?
La réponse est vraie.
Un terroriste.
C'est vrai,
vrai.
Guillaume a l'air très sûr de
ce que c'est vrai, moi, c'est incroyable ça. Mais ça ressemble un petit peu à Arrête-moi si tu peux.
Non, mais c'est vrai.
Donc c'est vrai pour Léo, vrai pour Guillaume, Aurélien?
Ouais, allez.
Eh bien, c'est vrai, vous aviez raison. Tu connaissais cette histoire apparemment.
T'as rien branlé. Cette histoire,
t'as rien créé. Allez, ça déroute. Il est dérouté.
À la fois, ça pose une vraie question. Est-ce qu'il a eu un accident? Non. Il a conduit pendant 40 ans. Il a toujours bien conduit et on lui a dit bah non, mais t'as pas le droit.
Mais t'as raison de dire ça parce que j'ai lu un interview d'un pilote expérimenté qui a dit moi, en fait, ce mec, j'aurais fait confiance à 1000% parce qu'il s'entraînait comme un chien et il pilotait très bien.
Moi, je vois pas le problème.
Voilà, donc les enfants,
j'ai quand même pas envie de
le faire piloter par lui.
C'est pas le cul à Quebec.
C'est la belle morale.
Mais quand il se passe un truc hardcore, ce qui lui est jamais arrivé, est-ce qu'il réagit bien? C'est ça le truc.
Est-ce qu'il y aura une info fausse dans ce jeu?
Bah, peut-être pas.
Ça a pas l'air.
J'espère, sinon c'est grotesque.
Le 9 mai, le 9 mai 2013, un avion faisant la liaison Los Angeles-New York a dû faire escale à Kansas City. Pour débarquer...
attends, peut-être qu'on a le premier faux, c'est trop précis là.
Pour débarquer une passagère qui hurlait en boucle le titre de Whitney Houston à Will Always Love You. Vrai ou faux?
Faux.
C'est ton genre de van, je pense. C'est faux.
Kansas City n'est pas sur la route de New York-Los Angeles, donc ça paraît compliqué.
Faux, parce que c'était pas I Will Always Love You.
Vrai ou faux?
C'est faux, c'est faux.
Eh bien, c'est vrai, allez,
putain!
Allez, c'est vrai! Et d'ailleurs, j'ai un extrait de ça! Et oui! I will always love you.
Putain.
Eh oui, vous pensiez tous que c'est faux. Eh bien non. On continue.
On l'adore, cette femme.
Elle l'a chanté combien de temps? C'est dingue.
Bah, pendant tout le vol, figure-toi.
Dingue.
Et elle l'a chanté de plus en plus fort et ça saoulait tout le monde. Et du coup, comme le pilote.
C'est pas possible de faire ça.
Mais
incroyable.
Oui.
Tu payes ton billet pour faire un truc comme ça.
C'est ça.
Ça coûte une blinde.
Alors,
tu
apparemment, il y avait une sorte de rumeur qui disait qu'elle était diabétique et c'était ses problèmes de diabète qui lui avaient fait perdre un peu la raison pendant le vol.
Okay.
Je sais pas. Ah, t'avais envie de faire deux vannes d'un coup là.
Van sur le diabète, c'est compliqué. Hein.
Mais non, mais en gros, le pilote avait peur que tout le monde soit énervé dans l'avion et que ça cause des problèmes. Donc il a préféré faire escale à Kansas City. Ensuite, en 1978, un Boeing de la compagnie Panaméricaine, alors en plein vol, est touché par un missile. Une aile explose, créant la panique chez les 371 passagers. Avant qu'un homme venu nulle part n'arrive dans les airs, sauvant l'avion de ses propres bras et le déposant au sol sous les applaudissements de la foule.
Ouais, ah, Superman,
vrai ou faux?
Superman, ouais.
Eh bien, c'était effectivement faux. C'est une scène tirée de la série Superman. Eh, vous êtes très forts, les mecs. Vous êtes vraiment bons. Et c'était effectivement l'info fausse. Et vous avez été très forts.
C'était la seule info fausse?
Bah oui.
Ah bah allez,
c'est vraiment faux, hein. Ça s'est jamais passé.
J'ai eu un doute à un moment.
J'ai jamais eu ça. Bon, et bien c'est sur cette déduction brillante que se clôt l'épisode d'aujourd'hui. Léo, est-ce que tu peux nous en dire plus sur ton actu du moment ?
Eh ben écoute, Gérald 4, comme je disais, est sorti. C'est le dernier épisode. Gérald qui d'ailleurs m'a été inspiré par notamment Y a-t-il un pilote dans l'avion, du fait des blagues des mecs qui prennent au premier degré. C'est le même principe. Sinon, je sors une BD, encore une fois avec Gérald, 23 janvier.
Édition oui, c'est Michel un peu la grosse info, ça, la grosse
ouais,
actu.
Ouais, à fond. Donc, je sais pas s'il y a une tournée de prévue, j'espère, mais ça va être grave cool.
Et alors, pour ceux qui se posent la question, parce qu'il y a plein de BD, il y a plein de youtubeurs qui font des BD, toi, comment c'était venu? C'est toi qui as eu l'idée? C'est toi qui a.
Pas
comment
du tout.
Ça s'est passé?
Donc, non, bah, justement, une interview, si on me demande si c'était un rêve de gosse, bah, je dirais pas du tout. En fait, on est venu me voir, on m'a proposé, je dis, bah, grave, c'est peut-être trop une bonne idée. Et j'aime bien faire des trucs différents. Et là, la BD, c'est grave une expérience de fou. On a bossé pendant un an dessus avec Mister Box qui fait les dessins. Moi, j'ai écrit le scénario. Il m'a aidé aussi un peu. Et on est très fiers de ce qu'on a fait.
Et donc,
vraiment
ça sort
cool.
Quand
23
janvier.
23 janvier. 2020.
Prenez date. Aujourd'hui, c'est à moi de choisir le film qui sera le sujet du principal, le sujet principal du prochain épisode. Et pour faire mon choix, je suis donc allé sur le Cinématcher, sur le site We Love Cinema. Et j'ai cliqué sur plusieurs choses. Mm-hmm. J'ai cliqué sur À la maison, d'abord. Hein ? Ensuite, j'ai cliqué sur Bouleversé, parce que, comme vous, jamais de bouleversé.
Ah, bouleversé.
On est souvent bouleversé dans cette émission, Jean-Marc.
Ça bouleverse.
Ensuite, j'ai cliqué sur Européen, années 90, le choix s'est réduit sur un film. Et si j'ai quelques indices à vous apporter, le premier indice, alors, faut pas le dire, hein, parce que c'est aux
on
gens de
pas.
Trouver. Hein.
Okay.
Le premier indice, c'est Vache. Oui, le premier indice de ce film, c'est Vache. Le deuxième, c'est Jogging. Et le troisième, c'est Barbecue.
Ah.
Voilà, ce sont les trois indices de ce film. Est-ce que vous saurez trouver ce film qui sera le sujet principal du prochain épisode? Et nous aurons le plaisir d'accueillir Mehdi Maizi et Anis. On a bien hâte. Aurélien, Guillaume, à bientôt.
À bientôt, merci à tous.
Merci les gars.
Et Léo, c'était un plaisir de t'avoir.
Mais oui, vous êtes des sucres.
Bah oui, ah oui,
vous
tiens,
êtes des sucres autant que j'aime Y a-t-il un pilote dans l'avion. Et Dieu sait que j'aime ce film. Et Dieu sait que vous êtes des sucres.
Un petit Renault pour le revoir.
Un petit Renault pour le revoir. On se retrouve dans deux semaines. Avec des bobos. Bon, allez, ciao, à bientôt.
Bisous.